Ah, c'est ça, tu vois, c'est sorti. Tu vois? T'as des pics un peu.
Ouais.
Je vais le faire forcément.
Bah, ça nous fera un petit aspect à faire sensible, c'est pas mal.
Oui, mais faut, oui. Attends.
Je dis c'est loin, mais c'est beau. Comment ça va? Je disais c'est loin, mais c'est beau.
Mais personne dit ça. Jamais de la vie.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Baby Graveurs, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en mode Boats, Based on a True Story, une discussion ouverte sur un film inspiré d'une histoire vraie ou de faits réels. Et ce qui est bien avec ce type de film, c'est que plus tu en cherches, plus tu en trouves. C'est un filon presque inépuisable. Je suis Thomas Hud et dans cette aventure, je serai accompagné aujourd'hui de Julien Lemoyle.
Salut Thomas.
Salut professeur. Ça va bien? Ça va et toi?
Oui.
La pêche?
Mais oui, oui, la pêche.
Voilà, la pêche, parce qu'aujourd'hui, bah, bonne ambiance. Bonne ambiance dans l'open space. On va parler de About Kim So-hee.
Ouais, je me disais aussi que c'est dans les films basés sur une histoire vraie, c'était pas forcément celui-là qu'on aurait choisi en premier normalement, mais
pas sûr.
Il y avait plus simple, hein.
Ouais, je
pense.
Ouais,
je crois qu'il y avait plus simple. Ouais.
Alors, d'habitude, on écoute la bande-annonce. Honnêtement, là, comme le montage de l'émission n'est pas encore fait, évidemment, je sais pas si je vais mettre la bande-annonce ou une partie de la bande-annonce. Alors, il y a une bande-annonce, mais ben, comme le film a eu une sortie assez confidentielle en France, je pense qu'ils ont même pas fait l'effort de faire une bande-annonce française. Donc, la seule bande-annonce que j'ai trouvée est coréenne, donc forcément, ça peut être un petit peu inaudible.
Je suis curieux de voir la bande-annonce, quand même. Ah, je ne sais pas si tu la mettras, mais moi, de mon côté, je pense que je vais la regarder, parce que j'aimerais voir la gueule de...
Elle te pose l'ambiance.
Oui, d'accord.
Ouais, elle te pose l'ambiance.
어서요. 가만 보니까 소희가 의지가 없는 것 같아. 또 이래가지고 못 버틴다.
잘 살아라 그랬죠. 버텨야 된다잉.
전주사 형사계 오유진 경감입니다. 각 학교 현장 실습 감독하는 책임자가 누굽니까? 아주 빠릿빠릿한 줄 알고 오냐오냐 했더니
너 인마 그렇게 해가지고 학교에 미치는 데미지가 얼마나 큰지는 알아?
Eh ben, partons à la découverte de ce film. La fiche technique va être assez rapide.
C'est vrai. Je vais essayer de t'agrémenter ça.
Surtout, faxe-toi quand
oui,
tu veux pour intervenir. Voilà. Le film s'appelle donc, titre coréen et international, Next So-hee. Il a été traduit en français dans un français impeccable qui s'appelle About Kim So-hee.
Ouais.
Voilà. Réalisé et scénarisé par Julie Jones. Sorti en France en mai 2022 au Festival de Cannes. Et puis sorti un an plus tard, en 2023. Une actrice, l'actrice principale qui joue So-hee est pas connue. Je crois que c'était son premier rôle, il me semble. Elle s'appelle Kim Si-eun. Et puis...
Elle avait joué dans la... Alors, c'est avant.
Vas-y.
Dans Squid Games. Elle joue dans la deuxième
ah,
saison.
Ah, d'accord. Ok.
Donc, moi, j'ai abandonné Squid Games à la deuxième saison. Donc, c'est bien. Donc, je ne l'avais pas reconnue. Mais elle a joué dans Squid Games. Okay. C'est une des protagonistes. La numéro... Alors, je ne sais plus quel numéro. C'est une actrice importante dans la deuxième saison de Squid Games.
Okay. Donc,
voilà, elle n'était pas totalement inconnue, quand même.
Alors, j'ai vu ni la première, ni la deuxième, ni je crois qu'ils ont même poussé jusqu'à une troisième.
On m'en dit du bien, mais moi j'ai abandonné.
Et l'autre actrice principale, c'est Douna Bay, voilà, qui est beaucoup plus connu. Ah tiens, j'ai pas noté sa filmo, mais
bah moi je
l'avais.
Tout
d'abord,
bah sympathique ou for Mr. Vengeance. En fait, il joue avec. Il joue souvent avec les mêmes réalisateurs, que ce soit Park Chung-wook,
Bong Joon-ho,
les sœurs
Wachowski. Elle a joué dans. Moi, je l'ai découvert dans la série Sense8.
C'est ça. Donc, voilà. J'ai pas vu aussi. On me dit du bien. Mm-hmm. Plus ou moins. Je sais pas si tu peux confirmer. Cloud Atlas.
Ah oui.
Jupiter aussi.
Jupiter Ascending. Ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Et puis elle a joué forcément avec Park Chung-wook. C'était Sympathy for Mr. Vengeance. Que t'as vu, non?
Que j'ai pas vu.
Oui, bon, tu peux le voir.
Oui, autrement, pareil, très bonne critique sur ce
ouais,
film.
Ouais, ouais, c'est pareil. The Host et Barking for...
Elle joue dans The Host?
Barking Dog, ouais.
Ah ouais, ouais.
Barking Dog,
d'accord.
Never Bite, que j'ai vu aussi.
D'accord.
Ouais, que j'aime bien. Donc, vraiment, gros star en Corée du Sud qui s'est internationalisée et qui est, moi, je sais pas, que j'aime beaucoup, en fait. Elle a un regard froid, assez
elle est
tendue, elle a un masque, mais
ouais,
ça,
masque
ça va bien.
Ouais, le masque mono-expressif.
Ouais, mais ça va bien.
Ouais,
voilà.
Ouais,
je sais pas, il y a un truc...
Alors j'ai peur, surtout dans le cinéma occidental, puisqu'on l'appelle de plus en plus sur des productions, notamment américaines, qu'elle soit malheureusement, j'espère pas pour elle, cantonnée un petit peu dans, toujours dans, dans
oui, le... Oui, la fameuse asiatique qui tient un placide et qui n'a... Je sais pas, dans Sensei, c'est les comment.
Bah non, dans Sense8, elle est assez... elle joue une personne... Enfin, elle joue une Coréenne.
Ouais.
Puisque, en fait, Sense8 fait se mettre en rapport, en relation, des personnes de différents endroits du monde.
D'accord,
donc, dans leur immersion culturelle locale, quoi. Donc, elle est asiatique et elle vit son aventure côté asiatique.
Mais elle a un personnage qui est un peu volubile, qui est quand même qui est pas l'espèce de bloc de glace qu'on a un peu dans ce film-là.
Oui, non, elle est pas froide.
Et elle joue aussi dans un autre film, c'est About a Girl, je crois, c'est ça, j'ai oublié le... A Girl is My Girl, excuse-moi.
A Girl is My Girl,
qui est le premier film de Julie Jung, la réalisatrice, quoi. Que tu n'as pas vu.
Que je n'ai pas vu.
Que j'ai vu.
Que tu as vu, tu nous en parleras peut-être un petit peu.
Ouais, je pourrais en parler un peu, c'est un film... qui raconte le retour d'une inspectrice dans une petite ville coréenne, qui va rencontrer une jeune ado forcément coréenne, qui a des problèmes, elle va s'intéresser à elle. C'est pas le film le plus drôle du monde.
Ouais.
Non, c'est
pas celui qu'on va traiter aujourd'hui
non
plus. Hein,
ouais, c'est un film social qui montre une Corée qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup aimé, notamment parce que j'avais déjà vu le film... Donc c'est pour ça que la réalisatrice, je connaissais un peu son univers en ayant vu ce film-là, j'ai pas été surpris. Je pense que si on commence par A Girl at My Door, dur.
C'est compliqué.
Dur, un peu dur. Mais ça se regarde, hein, pas non plus, pas de problème, mais c'est pas peut-être pas commencer par ça. Quoi. Okay. Mais c'est très bien. C'est très bien, à condition d'aimer About Kim So-hee.
Ouais.
Voilà, je pense que tu peux pas aimer l'un sans aimer l'autre, et inversement. Donc voilà, donc très bonne actrice, très chouette.
Et puis faut quand même les citer. Elle a joué dans les deux opus Rebel Moon.
Ah j'avais oublié ça.
Ah, oui,
exact. J'ai vu ça, mais ça m'a fait marrer. Je me suis dit. Je l'avais déjà oublié, tu vois.
Bon, je pense qu'elle a peut-être pas tout à fait su où elle mettait les pieds.
Je pense que c'est une porte d'entrée aussi dans.
Oui,
cinéma international américain.
Pour d'entrée à Hollywood, là, en l'occurrence, c'était Netflix.
C'est une prod
Netflix, mais bon, voilà. De toute façon, Rebel Moon, c'est de la merde. Hein, voilà,
j'ai aucun souvenir du truc. Du deuxième, le premier, je l'ai vu, c'était une purge.
Il
y a un deuxième, non?
Oui, il y a une suite.
J'ai eu peur avant.
Oui, il y avait une suite, tout à fait, qui était aussi nulle que la première. Et puis, comme ça ne suffisait pas.
C'est une saga? Ils vont continuer?
Non, ils ont. Normalement, c'est prévu, mais enfin, avec Netflix, tu sais, tout peut être... Ils disent, oui, il y aura une suite, et puis trois ans plus tard, tu vois toujours rien venir.
Vu les retours qu'ils ont eu, je pense que ça va
être sympa. Se fera jamais. Mais non, et puis ils ont surtout sorti deux versions étendues.
Director's Cut.
Director's Cut,
Donc, t'aurais pas bien compris, déjà.
Exactement, avec... Alors, moi, je me suis pas infligé ça, parce que je crois que les trucs durent plus de 3h30 chacun.
L'auteur avait des choses à nous dire, quoi.
Tu sais, c'est...
Non, mais je vois qui c'est. L'auteur, c'est notre.
L'Otache, là.
Oui, l'Otache.
Zack Snyder.
Zack Snyder, ouais. Oui.
Et donc, il a je sais pas comment,
oui,
son Justice League. Il a convaincu Netflix de dire eh, on ferait pas une petite rallonge budget pour que je dise vraiment
tout ce que j'ai à dire
dans ces films là et que je leur rajoute une bonne heure et demie quand même. D'après ce que j'ai lu, il y a plus de baston, plus de noirceur et plus de cul.
Il y avait beaucoup de baston, quand même, je
crois. Oui. Déjà.
Puis en plus,
assez lisible. Hein. Enfin bref.
Oui. Je sais pas. Ouais, Snyder, je peux pas.
Faut qu'on arrête de confier une caméra à ce gars. Je termine sur le casting. Je voulais également parler, parce que son rôle est important dans le film. C'est un acteur qui s'appelle Shimri Sub. Il joue Jihoon Lee, qui est le manager du call center quand Sohee arrive dans le call center et qui se suicidera quelques jours ou quelques semaines après son arrivée. Nous allons parler de l'accueil critique du film, puisque on sait que Thibaut Boisvenneau aime bien faire de notes.
T'as réussi à trouver les chiffres mondes. Ouais, je trouvais les chiffres mondes. Ouais,
Allociné, 3,8 sur 5. Voilà.
Ouais.
Et sur une note presse. Voilà. J'ai pas trouvé le budget du film.
Je suis tombé sur des chiffres, mais c'est compliqué à vérifier. Ouais. Je suis tombé sur une recette, mais 837 000 dollars de recette. Et j'ai tombé sur un budget qui était. Non, je veux dire une connerie, parce que c'était des chiffres que j'ai récupérés, j'ai vraiment un doute dessus,
donc ouais.
Autant pas le dire. Mais c'est en tout cas un budget très faible. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'était pas un film.
Voilà. 100 000 entrées France, voilà, donc ça reste effectivement très, confidentiel. Effectivement.
J'ai tombé sur 119 000 en spectateurs en Corée.
Seulement ?
Ouais. Et en fait, c'est du gros... après, ils sont 50 millions d'habitants en Corée. Ça reste pas beaucoup, mais un gros succès d'estime, par contre.
Oui, mais
gros succès d'estime,
quand un film marche bien là-bas, il peut faire, 10-15 millions
d'entrées.
Alors, de quoi ça parle?
De quoi la musique, en fait, je sais pas si on aura sans doute l'occasion de revenir peut-être un peu après sur la musique.
J'ai revu le film cette semaine.
Ouais, la musique.
J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup.
Il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas. Donc, une partie de la musique, c'est de, alors je vais le faire, Jang Yung-gyu, et en fait, c'est le compositeur, c'est pour ça que je l'avais noté, en fait, c'est que c'est Le Dernier Train pour Busan, et Le Bon, la Brute et le Cinglé. Donc voilà. Mais la musique est...
Quasiment absente.
Mmh. C'est fait partie des volontés de la réalisatrice d'avoir quelque chose de très épuré, comme la lumière aussi.
Ouais.
Je sais pas si vous avez vu, la lumière, en fait, on est quasiment toujours sur du gris, et le seul moment où il y aura de la lumière, quelque chose de chaleureux, ce sera les scènes de karaoké.
Ouais.
Et les scènes de coucher de soleil.
Mmh.
Autrement, tout sera dans des lumières très ternes et qui participent à cette ambiance ultra, ultra pesante du film, notamment au début, après, mais voilà, qui va montrer la descente de Kim Soo-hee dans sa fatigue morale et jusqu'à l'épilogue de cette preuve de. Parce que le film, je pars sur le film,
il est en deux parties,
donc c'est l'épilogue de la première partie. C'est construit comme ça, le film est construit en deux parties.
Ouais.
Et c'est l'épilogue de cette première partie, dont tu l'as déjà dit, mais l'actrice se suicide, la jeune étudiante. Et donc voilà, j'étais parti sur le fait que ce soit très terne, très, très sombre.
Elle-même. Du bleu, du gris,
c'est ça. Très, l'open space, il n'y a pas une couleur dans l'open space.
Ouais,
c'est glauque à souhait, c'est déprimant comme il faut. Donc voilà, c'était une anecdote sur la musique et sur un peu la lumière.
Oui, parce que comme d'habitude, hein, c'est pas grave, on part des fois peut-être un petit peu
dans tous les sens,
mais c'est pas. On le voit au début du film, elle vit une passion, c'est la danse.
Ouais, c'est sa caractérisation, elle est caractérisée comme ça, une fille
vivante,
joyeuse, danseuse, qui a un bon niveau aussi en danse, on la voit qui a un bon niveau par rapport. D'ailleurs, on le saura
par rapport
à une autre scène, on la verra rejoindre son groupe d'amis. Et elle ne danse pas, elle se met sur le côté, mais son groupe d'amis danse, et on apprend par elle que c'est une très bonne danseuse. Ouais. Quoi. Voilà.
Et c'est la scène de démarrage, hein, d'ouverture du film, où elle est dans la salle de danse, là, avec le parquet, grand miroir,
etc. Elle répète,
et il n'y a pas de musique, parce qu'elle écoute sa musique dans ses écouteurs.
Tout à fait.
Et je pense que c'est totalement voulu pour la voir dans son univers... Mais sans vraiment qu'elle nous fasse rentrer dans oui. son univers personnel.
Nous, en tant que spectateurs, on est exclus de ça.
Ouais, on est pas, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas invité.
On n'est pas invité, ouais. Elle est dans son monde, elle fait son truc. Mmh. Par contre, ça, c'est important ce que tu dis, hein, c'est que une fille qu'on nous montre comme joyeuse, si on veut, qui ne va pas hésiter à s'exprimer, à donner son avis quand ça va
surtout,
pas.
Surtout.
Surtout, notamment à la scène avec sa copine.
Qui est Instagrammeuse.
Qui est Instagrammeuse, qui fait des vidéos et qui se fait brancher par des mecs.
Ouais. Et elle va bah, c'est la scène suivante où elles sont au resto et...
elle va les chercher,
et
elle va mettre un coup.
Elle se bat.
Elle se bat avec elle, on la reverra se battre après encore une autre fois. Donc c'est quelqu'un qui nous est montré. N'ayons pas peur de s'exprimer, qui sait où elle est, ce qu'elle a envie de faire. Et c'est notamment ça qui sera un contraste avec la suite, quoi. Si vous voulez expliquer un peu le sens du film.
La trame générale, alors effectivement, elle est donc étudiante. Alors, j'ai pas une connaissance d'enfer du système scolaire coréen.
Je vais te le faire.
Ah, parfait. Mais donc, je sais pas si c'est encore l'école ou si c'est l'université.
Elle est en lycée. C'est un lycée agricole.
C'est une sorte de lycée professionnel.
C'est un lycée professionnel agricole.
Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, de prime abord, moi, sur le premier visionnage, il y a 2-3 ans, m'avait choqué, donc beaucoup moins, évidemment, à la revoyure récemment. C'est pas le fait qu'ils aient besoin ou qu'ils aient l'obligation de faire un stage qui est choquante, mais c'est que c'est que le lycée cherche les stages pour les étudiants. Pourquoi pas, hein?
Ouais. Non, mais
voilà. je suis d'accord avec toi. Et vont leur trouver le premier truc qui leur tombe sous la main, qui n'est absolument pas en rapport,
rien à voir,
avec les études qu'ils sont en train de faire.
Et au premier visionnage, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas totalement intégré. Honnêtement. Au deuxième visionnage, en ayant un peu réfléchi au film, ça m'a sauté à la gueule encore plus, quoi. C'est là où je me suis dit, mais en fait, le système sud-coréen est complètement fou, quoi. Parce que c'est ce que tu dis, c'est que cette fille, dans un lycée, on reprend, agricole, elle se retrouve dans un call center d'une grosse entreprise.
Korea Telecom.
C'est Korea Telecom, ouais.
Je précise même, c'est un sous-traitant d'un sous-traitant,
ouais.
Pour te dire à quel point l'entreprise donneur d'ordre, pour eux, c'est essentiel de garder les clients, mais la façon dont ils sont gardés, ils n'en ont rien à battre. Seul compte les résultats, et on y reviendra... Si tu es dans la société coréenne, je pense que tu peux peut-être comprendre ce mode de fonctionnement, parce que ça peut paraître logique. Après tout, ils peuvent se dire c'est pour apprendre le monde du travail,
l'expérience
en milieu professionnel. Mais effectivement, de prime abord, tu dis putain, la nana, elle est dans un lycée agricole. Elle va devenir, on ne sait pas trop sur quoi elle s'oriente. Justement, et ça fait partie toujours du fait qu'on n'est pas invité dans son univers personnel, intime, ce qu'elle veut vraiment faire.
Je pense qu'il y a vraiment, on retrouve aussi avec un de ses copains, il y a une séparation entre ce qu'elle vit comme loisir, avec la danse, avec ses copines, et je pense son milieu à l'école, où elle se retrouve dans un lycée agricole. On sent que les études, c'est un truc qui ne colle pas avec leur loisir de tous les jours. Il y a vraiment une séparation entre les deux.
Totalement. Est-ce que d'ailleurs, ce choix d'études, il n'est pas précisé, mais est-ce qu'il n'est pas un peu subi?
Oui, on pourrait...
Peut-être, on pourrait le penser.
On peut le penser.
Bah oui, lui, il est dans une usine où il conduit un camion pour aller livrer des parpaings.
Il fait de la livraison, il fait aussi du chargement. Pas grandiose non plus.
C'est clair.
D'ailleurs, une de ses premières réactions à la fameuse Kim Zoe, c'est quand elle voit son copain, qu'elle veut discuter, elle fait demi-tour et se barre, quoi. Parce que quand elle voit son vrai métier, à un moment où, je sais pas si tu t'en rappelles, elle le voit, il se prend une claque, il se fait un peu bouli par ses collègues.
Ouais.
Et elle, sa réaction, ça va être de se barrer parce qu'elle voit en fait ce que c'est que les stages aussi des autres aussi, qui sont un peu des stages pourris, quoi.
De merde. Hein.
De merde, ouais, où t'as 17 ans, tu te retrouves. Auquel t'es pas du tout formé et auquel ils ont jamais aspiré, parce que c'est ce qu'ils voulaient aussi. La danse et s'amuser entre amis, c'est pas se retrouver à faire de la merde.
Une vie de...
Et puis à travailler comme des dames, quoi.
Une vie de gamin de 18-20 ans,
c'est
quoi.
Ça,
enfin,
c'est
voilà.
Ça
par contre, sur la bouffe et la picole,
on les voit un peu.
Bien. Bah,
d'ailleurs, ça va augmenter un peu au fur et à mesure.
Totalement. Qui est d'ailleurs aussi un des. On le voit dans d'autres films. Coréen, c'est un des travers de la société.
C'est un marqueur, en fait, de dépression. Marqueur, quoi. Ouais. Dépression au début, et tu la vois qui boit, mais pas autant, et après, elle boit toute seule en plus. Mmh. Donc, tu sens, voilà, ça fait partie de cette ambiance un peu déprimante et de, du mal-être.
Quoi. Et donc, bah, par le biais de ce stage obligatoire, donc, qui lui est dégoté par, par son école, elle se retrouve dans un call center, hein, voilà, un centre d'appel pour une société de téléphonie.
De téléphonie, ouais, ouais.
Voilà. Et, c'est un call center particulier parce qu'il y a plein de choses différentes. Mais là, en l'occurrence, ils sont sur le service de résiliation des forfaits. Quoi.
Voilà, qui est un vrai service, qui est un service qui existe. Et la vraie,
un service de rétention.
C'est le vrai service en fait, où l'équivalent de Kim Zoe et celle pour laquelle le film a été... A été fait. Vraiment, ça s'appelle Save. C'est un service qui s'appelle Save. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Alors, oui, non, je ne l'avais pas, pas noté.
C'est bon, alors, on verra peut-être tout à l'heure, mais en fait, c'est un service qui sert à empêcher les résiliations et même à proposer, des offres en plus. Quoi.
Ouais,
donc,
voilà,
donc, elle se retrouve au premier job à faire ça.
Et effectivement, l'incentive de tous ceux qui sont dans cette pièce, hein, dans ce grand open space, c'est de performer sur empêcher les résiliations, et donc ils sont objectivés sur le nombre de résiliations empêchées chaque semaine, chaque mois.
Voilà, c'est pas trop ça comment c'est, mais c'est ça, c'est rien. Toutes les semaines, tu as un retour là-dessus.
Voilà,
quoi,
tout à fait. Ouais, ouais. Et puis de toute façon, les murs sont remplis de classements,
ouais,
tableaux chiffrés, etc. Comme si eux-mêmes ne savaient pas où est-ce qu'ils en étaient là-dedans. Quoi. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans ce type d'ambiance, effectivement, ça, c'est pas totalement anodin. C'est une brutalité...
C'est extrêmement violent. Ouais.
Sans nom. Ouais, c'est une violence sans nom. Encore plus, je pense, dans les sociétés asiatiques qui sont un petit peu moins empathiques peut-être que les sociétés c'est latines, possible, comme par chez nous, mais même chez nous, dans des call centers, surtout sur ce genre de problématiques. Mmh. Donc empêcher le départ, ou alors des centres d'appel qui vont essayer de te convaincre de t'abonner à quelque chose. Ouais, c'est l'usine, quoi. C'est les rendements, c'est...
C'est la mise... En plus, voilà, c'est on lui apprend le travail très rapidement, c'est, voilà, avec sa liste de phrases toutes faites qu'on
doit
réciter,
voilà,
classique dans ce genre de boulot. Mais c'est une mise en concurrence d'elle avec les autres élèves stagiaires qui sont autour d'elle, et le bureau où elle est, où ils sont une vingtaine peut-être, je sais pas.
Voilà.
Avec
d'autres...
qui lui-même encore est après en concurrence, donc c'est... C'est complètement fou comme système pyramidal.
Il parle de 3 ou 4
ben,
ou 5...
Dans le quatrième,
il se parle de 4 ou 5...
locaux, bureaux, de résiliation.
Agences ou bureaux de groupes différents, effectivement. Et les groupes sont mis en concurrence entre eux. Et à l'intérieur des groupes, chaque personne est mise en concurrence avec les autres. Et tu as des classements de partout. Et les managers sont presque shootés à ça. Tu les vois... Les deux managers qu'on voit, donc l'homme au départ, hein, qui va se suicider en premier, et la femme qui le remplace derrière, sont complètement obnubilés par le rendement, par les chiffres.
C'est ça, ouais. Avec un système de primes qui en découle, c'est que plus tu vas être performant, plus tu auras des bonnes primes, et à la moindre erreur ou appréciation négative, ta prime va chuter très fortement. Sachant qu'en plus, c'est là où un des nœuds de ce problème, c'est qu'en tant que stagiaire, ils ne peuvent pas aspirer à un salaire équivalent au permanent, et que leurs primes vont déjà descendre très très vite, et qu'en plus, le salaire n'est donné que 2 à 3 mois plus tard. Parce qu'ils...
Au bon vouloir,
et parce qu'ils ont, par expérience, ils savent que les gens craquent,
ouais.
Donc vont démissionner, partir, donc ils ne toucheront pas leur salaire ou leur prix. Donc ils anticipent là-dessus. C'est un des points de bascule dans cette jeune Kim Soe qui va essayer de faire son boulot correctement. Et à partir du moment où elle se rend compte, parce que les autres autour de lui disent que...
Mais ton pognon, tu le toucheras jamais.
Tu le toucheras jamais, tout ça. Là, elle va un peu basculer.
Stratégie totalement assumée de la part de l'employeur. Enfin, déjà, le fait qu'une majorité de présents soient des stagiaires dénote beaucoup de l'importance qu'ils peuvent donner à l'occupation qu'ils ont. Mmh. Effectivement, on apprend aussi, alors j'ai plus en tête la cascade, mais c'est au moins le deuxième ou troisième, c'est-à-dire que cette oui. boîte-là, elle est sous-traitante oui, d'une boîte qui est déjà sous-traitante du donneur d'ordre, ah ouais. c'est-à-dire...
le niveau d'importance, ouais, les hiérarchies, après ouais. où tu te retrouves vraiment en bas du truc, et tu comptes pas pour eux, quoi.
Et effectivement, tout concourt, j'ai l'impression ouais, qu'on est emmené dans une sorte d'entonnoir.
Et c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est eux. Et c'est la stagiaire, aussi, quoi.
Ouais.
D'entonnoir de
hiérarchie et émotionnel pendant cette première heure 10 à peu près. La bascule dont tu disais tout à l'heure que le film était en deux parties.
Deux parties, ouais.
Et la deuxième partie démarre quasiment pile poil à la moitié du film.
Une séparation entre les deux. Mais en plus, ce personnage de Kim Soo-hee, il va se rendre compte que ce qui est fait, bon, l'argent, il ne touchera pas. Il y a un problème aussi de respect de sa hiérarchie, où quand elle dit qu'elle veut l'argent, on lui dit ça, le problème avec les gens pauvres comme vous, ouais. vous voulez absolument toucher votre paye, bon, ce qui est absolument aberrant.
Ouais, c'est débitable.
Elle va quand même avoir un petit moment où elle se met à travailler comme une dingue,
ouais.
où elle va performer, ce qui fait des problèmes par rapport aux autres qui ne sont plus au niveau, qui lui le reprochent aussi, parce qu'elle performe trop, quoi. Et ça, elle va demander l'argent par rapport à ses bonnes performances. Forcément, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est qu'on trouve toujours des moyens de descendre son salaire, et ça ne l'accepte pas. Et c'est là où elle bascule, justement, et elle dit, bah là, ça n'arriverai jamais, j'ai une vraie pression. Et d'ailleurs, dans le film, on se rend compte, en fait, qu'elle est de plus en plus... Elle est au téléphone en train de répondre aux appels. En même temps, elle a son téléphone avec ses amis qui lui demandent de venir.
Et elle se coupe,
on la voit, en fait, elle est de moins en moins présente avec ses gens autour d'elle, même ses parents, elle est de moins en moins présente, la danse, elle n'y va plus que pour regarder les autres danser, mais elle ne danse plus, et en fait, on la voit qui sombre tout doucement.
Oui, oui, sa vie personnelle n'existe plus, elle disparaît au profit de cette vie professionnelle qui n'en est pas une, et effectivement, comme tu le dis, tu le vois qu'au départ, elle quitte son taf à peu près dans des trucs normaux, et puis en fait, elle reste de plus en plus tard. On le verra dans la deuxième partie où ils utilisent les textos qu'elle a envoyés à des heures où elle dit « Non, je suis encore au boulot, je fais encore quelques appels ouais. » parce que c'est cette course, pour elle, pense-t-elle à la prime, et puis pour l'employeur, la course au profit, quoi, tout simplement.
Eh ben, elle va quand même faire une première tentative de suicide.
Oui.
Et c'est aussi cette première tentative où elle est avec une copine qui va la sauver. Elle va se trouver à l'hôpital. Ses parents viennent la chercher. Elle demande à ne plus aller de retourner en stage. Ouais. Et c'est là où, en fait, on voit aussi le rôle des parents, le manque de communication. Les parents, en fait, ne comprennent pas. Oui. Et elle va quand même retourner alors qu'elle c'est un appel au secours.
Personne ne l'a senti, cet appel au secours.
Non, une tentative de suicide, et il n'y a pas beaucoup d'interactions, on voit très très peu d'interactions entre les parents, essayer de comprendre ou la sauver, ou lui dire les parents, on voit au début du film, sont assez contents qu'elle ait trouvé un stage dans une grande entreprise, mais c'est, en fait, personne ne s'intéresse à elle, quoi. Elle est seule, quoi, donc à ce moment-là, ses amis, elle ne les voit plus, ses parents, il n'y a pas de lien, en fait, entre eux, quoi, ils ne parlent pas plus que ça, sa hiérarchie complètement d'elle, et voilà, le reproche de pas faire bien son taf, ou de vouloir même éviter, de résilier véritablement, il y a des fois, ouais. Et puis l'école qui l'encourage à continuer malgré le fait qu'elle ne se plaise plus, quoi.
Chose qui m'avait totalement échappé au début du film, quand ce doit être un de ses professeurs.
Ouais, son professeur qui lui a trouvé le stage, là.
Ouais, qui lui a trouvé le stage, lui fait signer les papiers, conventions de stage, etc. Il y a une traduction qui est mise... À un moment, c'est assez furtif, qui apparaît, qui met l'école décline toute responsabilité en cas de problème.
D'accord.
C'est pas anodin, tu vois. Non, ça m'avait totalement échappé au premier visionnage.
C'est pas anodin, ouais, parce que notamment,
tu sais.
Bah oui, et puis ils le disent à un moment dans le film, il est 2 ou 3 mois. Ouais. Donc, un des amis de Kim Soo-hee va se battre d'ailleurs avec un de ses. On le verra pas, simplement il le dira, qu'il s'est battu avec un des ouvriers avec qui il travaille. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sous tension.
Bien sûr.
Pour des gamins de 17 ans, c'est vrai qu'ils sont sous tension tout le temps, ils se battent, ils reviennent parfois à leur stage, voire quelquefois ils le quittent, ou ils se barrent. Et d'ailleurs, dans le film, dans la deuxième partie, l'inspectrice va retrouver une de ses anciennes amies, bah celle qui fait des lives, je crois que c'est elle, hein,
ouais,
des lives, qui fait un autre métier totalement, hein, qui a quand même changé, qui se retrouve sur la route en train de faire de la signalisation, je sais plus ce qu'est. J'ai pas compris ce que c'était que ce métier d'ailleurs.
Non, pareil.
Tu l'as vu, elle est habillée et tout ça, elle fait une espèce de signalisation au bord de la route, j'ai pas trop bien compris, mais on voit qu'elle a complètement changé de cursus, quoi. Donc c'est... je sais pas où on en était, j'ai pris le truc là, mais non, généralement j'étais parti dans mon truc, je sais plus où on était, mais c'est pas grave. C'est... Je sais pas si on peut parler maintenant de... En fait, de comment fonctionnent les lycées privés sud-coréens.
Si tu as fait une étude là-dessus, je
Un petit peu, ouais.
Je suis curieux de l'entendre.
Le terme, on va se calmer un peu, parce que bon...
Mais vas-y, oui, parce que... non, mais ça en dit beaucoup, enfin, comment les films coréens qu'on voit depuis une vingtaine d'années, hein, parlent énormément de la société coréenne en elle-même.
Oui, oui.
Et ne prennent, et c'est ça qui est bien avec le cinéma coréen, c'est qu'ils prennent aucun gant pour décrire la réalité des choses.
Cette réalisatrice que je trouve, après, on pourrait voir par rapport à d'autres réalisateurs, mais je la trouve quand même particulièrement crue dans ce qu'elle fait. Quoi.
Mm-hmm.
Dans son premier film était cru.
Ouais.
Là, je trouve que par rapport à d'autres films qu'on pourrait avoir l'habitude de voir sud-coréen, on pourrait y avoir un côté comédie qui va être contrebalancé avec de l'action, ou alors un côté... violence, tu sais, on a toujours un peu ça switch d'un truc à l'autre, et elle ne switch pas du tout. Hein. Elle a une ligne, waouh.
Parasite de Bong Joon-ho.
Ouais.
Alors, tu as quelques instants un peu comédie dedans.
Ça peut switcher un peu quand
mais,
même.
Mais oui, il y a quelques switch, mais c'est quand même énormément un film de lutte des classes.
Oui.
Qui te dépeint les relations entre les riches et les pauvres d'une manière très abrupte, hein, quand même.
Après, dans ce film-là, il y a une esthétisation du truc. Parce que je veux dire que là, c'est brutal.
Oui, là, tu l'as pas.
Là,
c'est
gris, et on suit quelque chose de plus grand dedans dans sa façon de faire, où il n'y a pas d'artifice. Quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un film que tu peux ne pas rentrer dedans. Quoi. Je sais que je l'ai fait découvrir à d'autres personnes, qui n'ont pas forcément apprécié plus que ça, soit parce qu'ils avaient l'habitude d'un autre cinéma coréen, un peu plus violent, peut-être, avec d'autres parts de comédie, avec un cinéma coréen plus déroutant. Là, c'est quelque chose de plus terre-à-terre.
Il n'y a pas
36... Il y a un degré de lecture, quoi.
Totalement.
Ah oui, faut pas chercher...
Faut pas chercher de s'en cacher.
Non, on y va, c'est brut, on y va direct.
On te décrit une réalité
brute et crue.
Et si ça te plaît pas, comme tu le dis, si t'embarques pas, tant pis pour toi.
Ça va être 2h15.
On est d'accord. 2h15, ouais.
2h15 de gris.
De bonnes grosses marades.
Ouais, alors... Bon, je reviens vite fait, je vais venir sur ce que j'avais. Mais surtout, en fait, c'est surtout pour les lycées professionnels.
D'accord.
Donc, les lycées publics, c'est un peu différent, ils sont évalués autrement. Donc, d'ailleurs, un des problèmes, c'est que les lycées professionnels, à mon avis, doivent souffrir un peu d'être en opposition avec les lycées publics, qui eux sont bien cotés. Les lycées professionnels, à mon avis, c'est moins bien coté parce que ce sont des jeunes qui ont moins bien réussi. On va les mettre en voie de lycée professionnel, alors que bon, c'est pas forcément, c'est même pas moins bien ni mieux, mais c'est comme ça que c'est noté, évalué. Donc en fait, il y a les lycées sont évalués, j'avais noté, améliorer le taux d'insertion professionnelle, et pour ça, en fait, il doit avoir un taux d'emploi immédiat après l'école. Je sais pas si t'as établi ça,
et on le voit, ils en parlent. Ouais. Film, et du taux d'emploi, c'est le chiffre.
C'est l'alpha et l'oméga de leur truc. Ils doivent avoir
un chiffre qu'ils regardent.
Et pour ça, ils doivent avoir un nombre d'élèves placés en entreprise très élevé.
Mm-hmm.
Et pour avoir un nombre d'élèves très placés, ils doivent avoir une stabilité dans les emplois. C'est là où on revient, où le prof gueule un peu parce que ça démissionne, il se barre. C'est qu'il faut qu'ils restent dans leur emploi, surtout pas. Et c'est pour ça qu'ils l'incitent à ne pas démissionner.
Ouais.
Et ça fait partie de leur évaluation au lycée professionnel. Donc, en fait, plus le taux d'emploi est élevé, plus en fait, le lycée va gagner en réputation. Et notamment, on voit ce lycée-là est très, très mal noté.
Oui.
Ça fait partie, à la fin du film, on voit le tableau des notations de lycée. Et alors, lui, il est au fond de la classe. Ça veut dire moins de subventions.
Quand Eugene, qui est joué par Dunabey, se rend dans le lycée, elle rencontre plusieurs personnes, dont une nana... qui lui explique effectivement tous ces chiffres qui sont au mur, etc. Qui lui dit clairement, factuellement, si on ne progresse pas là-dedans, on a moins de sous, et donc on n'a pas d'argent. Et donc on ne peut plus faire notre boulot. Quoi.
C'est ça. Et ils le disent à un moment, il y a des lycées qui ont fermé.
Voilà.
Totalement. Lycée Clonfert, ouais. Parce que bah, ils sont mal classés et donc pas d'argent, pas de subvention.
Plus de subvention, plus de fonctionnement.
Donc ça revenait à ça, c'est en fait attirer, en fait, plus tu vas être bien classé, plus tu vas attirer davantage d'élèves, plus tu auras davantage d'élèves, bah, par rapport aux autres lycées, tu seras plus haut qu'eux. Donc tu, voilà, c'est un cercle vicieux, ouais. Où tu vas attirer
davantage. Vertueux,
en vertueux, oui,
ouais, ouais. Selon le côté.
Donc en fait, comme c'est un système de financement, plus tu vas être élevé, plus tu vas les maintenir. Mm-hmm. Donc tu as un partenariat avec les entreprises, c'est-à-dire que plus tu vas réussir à placer des élèves dans les entreprises de bien côté, bah, ces entreprises en retour vont te subventionner. Donc l'œuf et la poule, en gros.
C'est ce que lui dit son maître de stage au début. Mmh. Et,
même ses parents. Hein.
Oui, ses parents. Mmh. Mais son maître de stage dit, putain, c'est la première fois qu'on réussit à envoyer des élèves dans cette boîte. Alors lui, il simplifie au maximum parce qu'il voit,
il voit
Korea Telecom tout en haut. Mais, et c'est là, derrière, on dit, ouais, attends, c'est le sous-traitant du sous-traitant quand même. Hein, c'est pas,
et pour faire un boulot qui est affreux, quoi.
Oui, pour faire
le boulot le plus affreux. Donc lui, il est content de...
Ouais.
Donc, essaye. En fait, après, ça permet d'entretenir justement avec ces entreprises des bonnes relations. Mm-hmm. Donc, l'intérêt de ne pas démissionner, d'avoir des subventions. En fait, c'est ça. Donc, tout le monde se tient, en fait, dans ce système-là. L'école a intérêt à envoyer dans les entreprises. Les autres entreprises se trouvent avec de la main-d'œuvre pas payée, jeune,
chère à canon. Cher, hein, ouais.
On a un taux d'emploi très élevé. Mm-hmm. Le gouvernement file des subventions. En fait, donc, c'est tout ça et tout l'ensemble, et les seuls qui n'ont pas leur mot à dire, ça va être les élèves qui se retrouvent un peu foutus n'importe où, sans que ce n'ait de rapport avec leur formation. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Donc c'est pour ça un peu que les lycées professionnels, on voit souvent le professeur de Kim Soe venir la voir et l'encourager à continuer, à persévérer, et même à minimiser en fait, son mal-être. Quoi. Parce que d'ailleurs, ce sera une des questions que l'inspectrice... pose à son prof, c'est
de
savoir
entre deux coups de poing.
Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes inquiété de la santé non, elle avait l'air d'être bien, parce que c'est une fille forte. Alors, ça revient souvent, ça. On lui dit, oui, c'était une fille forte. Ce qu'on a dit au début du film, c'est une fille forte. Oui, mais au bout de 4-5 mois de stage, c'est plus du tout une fille forte. Elle est complètement amoureuse. Donc voilà, c'était un peu le lycée professionnel, le fonctionnement du lycée professionnel sud-coréen que je ne connaissais pas.
Effectivement, et tu découvres. Alors, on gratte un peu la surface au début du film, et effectivement, toutes ces problématiques-là te sont révélées après, lors de l'enquête policière, dans la deuxième partie du film, et ce que tu avais commencé à entreapercevoir au début te pète à la gueule à la fin du film, et t'es là, tu te dis, waouh, putain, la machine à broyer, elle est de tous les côtés, quoi.
Bah, c'est un système qui est conçu justement pour que... En plus, tout le monde se renvoie la balle. Mmh. C'est un système qu'on ne peut pas attaquer. L'inspectrice ne pourra jamais en fait, avoir un coupable.
Personne n'est coupable.
Les flics le disent.
Ouais. Et la mécanique est super bien rendue par le film, par le scénario. Parce que... développera peut-être un peu plus quand on reparlera de la deuxième partie du film.
On a bien
mais effectivement, ils se rejettent tous, entreprise, école, bref, ils se rejettent tous
la patate chaude,
la responsabilité du truc en se disant c'est surtout pas nous, quoi. Donc,
mais non, parce que le système est fait comme ça et tu peux pas, en fait, eux, c'est le lycée n'a plus d'argent, donc va péricliter, donc il se doit d'envoyer des élèves. Et l'entreprise, elle, dit, mais non, nous, c'est une convention de stage, et puis c'est la façon dont on fonctionne. Le ministère au-dessus, bon, qu'on voit pas dans le truc, mais c'est son système de fonctionnement aussi. Mm. Les parents, qui ont aussi leur rôle, hein, qu'on voit pas trop, mais ils s'intéressent pas trop à la vie de l'enfant.
Ils sont assez absents.
Donc en fait, tout le monde est coupable, en fait. Enfin, je pense que la fin du film, c'est un peu ça qui ressort, quoi. T'as l'inspectrice qui est dénuée... qui est toute seule et qui, en fait, tout le monde est foutu, quoi, qui est vérolé.
Enfin, un des premiers red flags qui intervient, c'est le suicide du manager de Soe. On ne comprend pas bien comment il s'est suicidé. A priori, il est resté dans sa voiture.
Dans sa voiture, c'est la neige, en fait.
En plein hiver, il serait mort de froid.
On ne sait pas.
Et à la limite, je dirais, peu importe, mais il se suicide sur son lieu de travail déjà.
Oui, c'est important.
Ce qui veut dire beaucoup de choses. Message qui, évidemment, n'est absolument pas entendu par l'entreprise. Hein.
Oui.
La scène qui suit la découverte.
Elle est
hallucinante de cynisme, de froideur, de tout ce que tu veux. Puisque la nouvelle manager arrive dès le matin même. Et bah, grosso modo, ok, ah bah, il est plus parmi nous, c'est triste, bouh. Bon, maintenant, au boulot, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Chômeur gone.
Ouais. Et c'est fait d'une manière robotique, mécanique. Ouais. Presque.
Mais qui correspond avec le boulot qu'ils font.
Presque didactique.
Mais c'est le boulot qu'ils font aussi.
Ouais, ouais.
Car au boulot, complètement toujours la même chose, faire toute la même chose, bah, ils sont humainement comme ça. T'es qu'un pion, t'es que.
Ouais,
t'es
pas. Totalement.
Ils lui font signer des papiers de. Direct
pour ne pas parler.
Ouais, c'est ça, hein, ouais. Directement. T'as ça.
Comment, avec une carotte financière derrière. Et elle,
qu'ils récupéreront vu qu'ils lui piqueront sur ses notes et sur son stage, donc pas de problème.
Ouais, ouais. Là, c'est. Non, tout est d'un cynisme incroyable là-dedans, puisque, ouais, effectivement, les papiers de non-divulgachage sont distribués quasiment dans la foulée du truc. Enfin,
totalement.
Et tu peux... Enfin, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Non, mais attends, s'ils sont rodés comme ça à une situation pareille, c'est que ça a déjà eu lieu. »
Mais ils vont le dire après, plus tard dans le film.
Oui.
Il y en avait déjà eu, je crois, ça.
Oui, il y en avait déjà eu.
Mais oui, c'est que...
Manager ou stagiaire.
Ils anticipent.
Ouais, voilà, peu importe. C'était anticipé. C'était, c'est presque une... Malheureusement, c'est presque une situation presque normale, en fait.
Ouais, ouais, c'est pas... Et puis,
chronique de la vie courante.
Un manager succède à un autre manager.
Ouais. Et lui encore, tu vois, avait certaines réactions encore assez
humaines.
D'ailleurs,
c'est pour ça qu'il se suicide, c'est qu'il se rend très bien compte
de la merde,
de la merde ce qu'il fait et qu'il demande à des gamines de faire. Quoi.
Et ben oui, ce premier red flag effectivement sonne déjà pour Zoe comme un tonnerre. Ses collègues de boulot sont présentes, mais on les voit pas beaucoup.
Non.
Il y a juste
la pause clope ou
il y a juste un dîner
un dîner un peu foireux, un dîner d'entente d'équipe
De cohésion.
Cohésion pour j'avais trouvé plus le mot pour faire oublier à quel point en fait l'ambiance est détestable, le boulot qu'on vous demande est dégueulasse, mais on va vous payer une bière et puis on sera content.
Et puis la soirée se passe bien puisqu'elle se frite avec une de ses collègues, puisque c'est à ce moment-là que clairement on lui reproche de trop performer, ce qui est quand même
On lui reproche et surtout parce qu'elle ne touchera pas l'argent après, ça sert strictement à rien. C'est là où elle lui dit, mais elle explique que tout ce qu'elle fait ne servira à rien de performer comme une dingue comme ça, parce qu'au final, ça n'abrutira pas d'argent en plus et au final, elle fout la merde avec tous ses autres collègues.
Ouais. On lui dit qu'elle est perdante à tous les niveaux. Voilà. Totalement. Et à ce moment-là, elle essaye encore un petit peu de se rattraper à la réalité. Tu la vois encore passer les soirées avec ses potes, faire du karaoké. Tu la vois encore essayer de vivre. C'est à peu près à ce moment-là aussi où elle retourne à sa salle de danse. Pas pour danser, mais pour regarder ses copines
danser.
Et tu t'en aperçois pas forcément, mais Eugene est là.
Oui. Voilà. Tu t'en aperçois que moi, je m'en suis aperçu à la deuxième vision.
Voilà.
Parce que la première, il est impossible.
Non, parce qu'elle est presque tournée de dos. Elle dit juste un ou deux mots comme ça, mais elle reste concentrée dans son
visage.
Voilà, tout à fait. Et elle-même elle calcule pas, Zoé. Elle se rendra compte plus tard en voyant des vidéos qu'elle était dans la même pièce que elle à son cours de danse, ce qui l'incitera d'ailleurs peut-être à prendre un intérêt, une part encore plus importante dans la résolution de son enquête.
Ça montre aussi à quel point en fait ils dansaient tous ensemble mais qu'ils ne se parlent pas, quoi.
Ouais.
Parce qu'en fait il n'y en a aucun qui se connaît, quoi.
Oui.
C'est assez dingue. C'est que c'est des copines de danse mais elles se connaissent pas. Une fille, après c'est une adulte qui se retrouve à danser avec elle, mais il se parle pas parce que même les autres vont lui demander « Ah, vous êtes inspectrice de police ?» Il ne le savait même pas. En fait, personne ne sait rien sur personne. Ils sont simplement là pour danser, dansaient.
Ouais, c'est ça. Je suis inspectrice de police. Ah bon, inspectrice de police ? En fait, elle tombe des nues Et je pense que c'est un marqueur fondamental des sociétés asiatiques.
Une espèce d'individualisme forcené.
Pour ça, le cinéma est un révélateur aussi. chez les anglo-saxons, anglais, États-Unis, voilà, c'est assez chaleureux, assez fraternel, mais quand tu grattes un petit peu, des liens d'amitié importants existent assez peu, en fait, dans les populations. On est très famille, mais on est moins amis. Aux États-Unis, notamment, quand tu reçois tes amis à manger, en général, c'est à l'extérieur de la maison, c'est barbecue, d'accord, etc. Okay. Tu vois, oui, c'est assez peu des dîners, tu vois, en interne. Et dans les sociétés, alors je vais dire européennes, mais je dirais peut-être plus voilà latine méditerranéenne, où c'est plus long à se mettre en place, mais c'est un peu plus profond comme sentiment, où effectivement, moi, pour l'avoir vécu dans d'autres pays européens, un peu plus slaves ou anglo-saxons, inviter les gens chez soi, c'est pas du tout une...
Vu comment ils font à bouffer, c'est peut-être pas plus mal.
Notamment, moi, c'était le cas notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, comme ça.
Ça joue, hein.
Et voilà. Effectivement, moi, quand j'ai 20 ans de ça, aux Pays-Bas, j'avais fait, comme j'étais en démarrage de job là-bas, donc pour apprendre... les produits, etc. J'avais passé trois mois aux Pays-Bas, et puis mes collègues, je les connais, ils sont sympas, et tout, on va se faire un petit dîner. Donc j'en avais invité quelques-uns pour dîner, et ils avaient été très surpris, et ils ont été encore plus surpris de ce qu'ils ont bouffé, parce qu'ils s'y attendaient pas du tout.
Qu'est-ce que t'avais fait?
Moi, je m'étais fait envoyer des boîtes de confit de canard, et des trucs comme ça.
C'est un peu violent, pas mais...
Ouais, je peux te dire, un confit de canard avec du vin rouge et tout, ils n'avaient jamais bouffé ça de leur vie. Tout ça pour dire voilà, que les sociétés ont les gens dans les sociétés ont des rapports très différents, des codes. Et effectivement, tu apprends à décrypter les codes de la société coréenne. Les gens en fait, communiquent assez peu, se parlent peu. Et finalement, les interactions les plus proches qu'on voit dans le film entre des gens qui sont amis, c'est d'aller bouffer au restaurant ou de se bourrer la gueule.
Ou
de se bourrer la gueule ensemble. Quoi. Et ça en dit beaucoup sur une société, d'une part. Et ensuite, effectivement, on va le voir, plus le film va avancer, plus on va le voir, tu le disais tout à l'heure, l'alcool va être un refuge pour Zoé notamment, pour échapper à son quotidien de merde.
Ouais, voilà. Sur ce truc de l'alcool, où elle se met quelquefois, on la voit boire des bières toute seule. Et c'est en fait ce qu'il a. C'est quand l'inspectrice reviendra sur les lieux de ce bar où elle boit toute seule. Ouais. Il demandera à la tenancière du bar
de lui servir la même chose.
De lui servir la chose. Donc ça, c'était quand même un miroir entre sa situation de l'inspectrice, qui en fait aussi seule aussi, je pense, vu le caractère, vu comment elle est.
Ouais, de ce que j'ai lu, en fait, elle revenait d'un truc personnel. A priori, c'était le décès de sa mère, d'après ce que j'ai...
Je
ne
me rappelle pas de ça.
Je crois que c'est pas dit dans le film. Il me semble que c'est dans une interview que j'ai lue. Elle disait l'inspectrice qui est jouée par Dunabet, elle revient après une absence parce que sa mère est morte, etc.
C'est pas évoqué dans le film, ça.
Ça explique un peu et ça explique pourquoi elle n'est pas hyper joyeuse. Et où sa hiérarchie lui donne entre guillemets une affaire simple à régler.
Qui aurait pu te régler en 5 minutes. Hein. Voilà. Parce que je pense que c'est vrai que on est passé du moment où elle buvait une bière. Bon, c'est pas. Mais c'est vrai que à partir du moment où elle découvre le corps de Zoé, mais l'affaire est classée. Hein. Il considère que c'est un suicide. C'est fini. Point barre. Le film peut s'arrêter là en fait.
Totalement.
Mais je voulais seulement revenir sur le fait que par rapport à l'alcool, où elle se retrouve à boire elle-même les deux bières. Comme Zoé, et que la tenancière lui dit il y a les jeunes viennent boire de l'alcool, et souvent j'essaie de leur parler, et ce qui montre en fait que c'est assez récurrent ce schéma de venir boire de l'alcool tout seul pour des jeunes, et que la tenancière a l'habitude, et
elle n'est pas choquée de ça.
Elle va leur parler parce qu'elle se rend compte qu'il y a un malaise. Et ça, en fait, c'est par ces petites phrases en fait, où tu arrives à comprendre l'atmosphère du film et à comprendre ce que. Cet aspect de la société.
C'est surtout aussi quand tu vois la taille des binous qui sont servis, parce que c'est des bouteilles de 75 centilitres.
Un degré d'alcool très faible.
Ouais, tu les connais, tu les connais ces gars-là.
Bah, pas forcément celle-là, mais je vois le principe de ces bières qui sont quand même.
Ok.
C'est pas des. Bon, mais c'est pas, hein, c'est qu'ils s'en
fichent. Mais la première, au premier visionnage du film, tu la vois rentrer, machin, elle dit ouais, je voudrais deux bières, s'il vous plaît. Ouais. Elle s'assoit et l'autre, elle lui apporte deux bouteilles, mais.
Ouais, c'est des 50, je pense, c'est des 50.
Ça paraît gros quand
ça
même.
Ça paraît mais gros, bon, c'est gros, mais ouais, mais c'est classique. Hein.
Ouais. Des grosses bouteilles.
Ouais, ouais, complètement. Ah, mais c'est à 4 degrés, 5,
tout comme ouais, ça. Ouais, d'accord.
Ça empêche qu'elle s'enfile. À 17 ans, elle s'enfile.
C'est, ouais, ouais, tranquille.
C'est son litre de bière, tranquille, quoi.
Et puis en soirée, enfin, tu vois, c'est des shots d'alcool.
Ouais, ouais, ouais.
D'alcool fort.
Elle doit se mettre autre chose.
S'envoie, ouais, ouais, totalement. Effectivement, cette alcoolisation grandissante au cours du film va l'emmener. Dans une dépression de plus en plus prononcée, laquelle elle ne reviendra pas. Quoi.
Ouais, avec un suicide par noyade, quoi. C'est un lac à côté.
Elle est dans un lac, et alors, oui, noyade plus eau glacée, qui l'anesthésie, et puis voilà, elle se laisse.
D'ailleurs, pas trop de pathos par rapport à ça.
Non, on ne voit pas la scène.
Bah, tant mieux, mais c'est bien filmé, en fait, simplement sur le personnage, et puis on passe.
Tu as ce plan sur elle,
qui est assez
beau, ouais. Et terrible et beau à la fois, parce que tu as le reflet du soleil à ce moment-là, tu as un soleil couchant.
Rare lumière du film. Donc, elle a trouvé sa lumière, quoi, au final.
Et ensuite, tu as un plan sur ses pieds, qui ne bougent pas, et à un moment, ça switch, les pieds se tournent en direction du lac, et elle avance. Tu peux te dire que peut-être qu'à un moment, elle a hésité, et elle n'a jamais vu sa rédemption, c'est pas le bon terme.
Par
elle n'a jamais vu l'espoir.
L'éclair, le truc qui la ferait retourner ou basculer.
Qui la fera retourner à son arrêt de bus et rentrer chez elle. Quoi.
La première fois que je vois le film, en fait, je m'attends pas du tout à ça. Même la période... En fait, je me suis pas dit qu'elle est...
Alors moi je savais que c'était tiré d'une histoire vraie sur un suicide. Donc
t'es pas choqué. En fait, on est à une heure et quelques de film. Je me dis que c'est l'actrice principale. Et je me dis pas waouh, c'est vers ça que ça va tourner en fait. Vu que j'ai regardé le film sans trop savoir, ça m'avait cueilli quoi. Je me suis dit, là ça m'avait mis vraiment un choc. Ouais. Et après on part sur l'enquête, mais ça m'avait vraiment bien descendu dans le beat de me dire putain, on a fait une heure et quelques de film.
Et elle est plus
et
là.
La crise pour laquelle on s'est attaché, on voit sa condition qui est affreuse.
Sa vie de merde et tout.
Là, c'était chaud. Quoi.
Ouais, clairement. Ouais. Et donc, le film bascule à ce moment-là.
Le film bascule dans la deuxième partie.
Pour moi, cette deuxième partie, elle est peut-être un petit peu plus linéaire que la première. Mais en fait, elle te...
Ben, elle donne les clés à un spectateur comme moi pour comprendre en fait la première partie.
Oui, ce qui s'est passé.
Parce que moi, j'ai pas les clés du système coréen. C'est vrai qu'un spectateur qui est pas coréen, la première partie, elle peut être un peu nébuleuse parce que on ne sait pas ces trucs par rapport au lycée professionnel.
Tous ces codes que tu ne maîtrises.
Moi, j'ai pas du tout. Je comprenais pas. Et en fait, la deuxième partie permet permet de faire le comprendre. Ce truc de classement, de hiérarchie, de on se renvoie la balle, tout ça.
Et en même temps, t'as une escalade.
Par rapport à elle. Elle monte en tension tout le temps.
Elle monte en tension, donc toutes les scènes montent en tension, et le spectateur, il est accompagné aussi là-dedans.
Ouais.
Tu sens que cette marmite, elle commence à bouillir, voire déborder. Et tu te demandes en fait jusqu'où ça va aller parce que toi en tant que spectateur tu peux presque t'identifier en fait au personnage de Woo Jin qui découvre en fait un système qu'elle ne connaît pas.
Oui, faut croire que oui.
Et sur lequel, en fait, elle va de découverte en découverte et où elle hallucine proprement de ce qu'on lui raconte.
Et la réaction des gens aussi, je pense.
Et le
retour qu'elle a, en fait, ce que ça lui rend, le renvoie. Quoi. Et on renvoie les gens vers...
Et on le disait tout à l'heure, en fait, elle a un déclic à un moment qui fait que cette enquête, elle aurait pu la classer comme un suicide... C'est horrible de le dire, un suicide classique. C'est suicidé, voilà, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, il n'y avait pas de courrier, il n'y avait pas de lettre, il n'y avait rien qui était laissé derrière. En plus, il ne retrouve pas son téléphone portable au début. Ouais. Il le retrouve plus tard dans l'enquête parce qu'elle, elle a voulu poursuivre l'enquête. Elle a travaillé son sujet. Et elle va découvrir, en fait, un monde qu'elle ne connaît pas, avec des réactions en face d'elle, mais qui sont juste, enfin, pour le commun des mortels, sont proprement hallucinantes, quoi.
Bah, je sais pas, ça me paraît. En fait, c'est des réactions. Je sais pas si c'est hallucinante, en fait. C'est là où, tu vois, le manque de connaissances par rapport à la société coréenne. Est-ce que c'est pas des réactions totalement normales? Dans ce monde-là où les codes sont ceux-là, c'est-à-dire que chacun renvoie à l'autre, et en fait, le seul responsable, c'est l'individu à la fin qui n'accepte pas la pression qu'on lui a donnée, mais les autres, en fait, ils ont fait simplement ce pour quoi on les a embauchés, et ce pour quoi on les engage.
Alors, c'est l'écart, en fait, entre ce que les gens vivent et auquel ils sont habitués.
Mais
et
puis, j'ai l'impression qu'il n'y a à aucun moment, en fait, ils n'ont d'empathie pour qui que ce soit. On leur a donné une tâche, ils la font bien. C'est comme on fout, quoi.
Quand je l'ai re-regardé pour la deuxième fois cette semaine, j'étais là sur la scène qui suit le suicide du premier manager. Et celui-là, j'ai dit, putain, on est au niveau zéro de l'empathie. C'est incroyable, en fait.
D'ailleurs, je suis pas surpris dans l'entreprise qu'il n'y ait pas d'empathie.
Ouais.
Mais après, c'est
dans la société.
La société, l'école, il n'y a pas d'empathie.
Non.
Par rapport au... Alors, c'est quoi? C'est le système... C'est à quel niveau on est quand t'as cette femme de petite taille là qui vient parler? Elle aussi, elle est glaçante parce qu'en
fait... Elle est en...
C'est le ministère, elle a un lien entre le ministère.
Ouais, elle est en lien entre l'école et le ministère, effectivement. Alors, est-ce que c'est une sorte de rectorat?
C'est ça,
je pense qu'on est à peu près dans un équivalent, effectivement. Mais moi, je reviens un petit peu en arrière sur... alors déjà, la bascule, quand Woo-jin sort de son premier entretien avec la manager et tout... Et puis qu'elle se dit, elle était déprimée, machin et tout, elle s'est suicidée. Elle est sur le parking du call center, et t'as une de ses anciennes collègues, Zoe, qui vient la voir en disant, « Ah oui, regardez, c'est là que le manager s'est suicidé. » Et là, l'autre, quoi ? De quoi vous parlez ? Il dit, « Bah si, machin, il était dans sa voiture, et tout, on l'a retrouvé mort le matin. » Et là, l'autre, elle tombe des nues en disant, « Mais attends, il y a eu des morts dans cette boîte, et personne n'a enquêté là-dessus. » Et pour moi, c'est son déclencheur à elle. Ouais. En fait, je me suis dit, attends, non, il y a... Donc, si c'est un schéma dans cette boîte, on va enquêter là-dessus, parce que c'est pas normal. Et derrière, t'as cette scène proprement hallucinante, où elle est, tu sais, avec le PDG, et puis les trois exécutifs devant eux, où en fait ils essaient d'expliquer elle était pas très bonne, on a dû la recadrer plein de fois, enfin, qui rejette totalement la faute sur l'ex-employé. Et à la fin, le patron, qui a pas dit un mot de l'entretien, et qui en guise de conclusion dit, cette histoire nous fait passer nous pour les méchants. Et c'est nous qui devrions intenter un procès à l'école et à cette fille qui s'est suicidée parce qu'elle porte du tort à l'image de l'entreprise.
Ouais.
Et là, t'as tellement d'informations qui arrivent en même temps. Tu dis, est-ce que je viens vraiment d'entendre ce que j'ai entendu, quoi? C'est délirant.
Quoi, après, cette tactique classique de reposer sur la faute sur l'autre et d'attaquer. Quoi, d'être
de se poser en victime d'inverser
la charge. Quoi.
Et les policiers qui sont présents là, donc Woo-jin et puis son subordonné, inspecteur, et qui en fait ne répondent pas, et je pense parce qu'ils sont juste hallucinés d'entendre. Entendre les propos qui sont tenus à ce moment-là.
Ouais, tout à fait.
Et pour moi, à chaque étape de leur enquête, on va monter d'un cran, quoi.
Ouais, après, elles montent toujours dans l'échelle de responsabilité, en se tombant sur un mur, quoi, où chacun va répondre que c'est l'autre, et en se dédouanant, tout le monde se dédouane.
Que ce soit sur les témoins ou suspects qu'elle interroge, ou même en interne avec son chef aussi.
Ouais, le chef est...
Le chef qui dit, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ce truc, qu'est-ce que tu nous fais chier, t'aurais dû le classer, c'est un suicide. Moi, je t'avais mis là-dessus parce que c'était une enquête pépouze, et fallait classer le truc, et puis passer à autre chose, quoi. Waouh, là, le peu de considération humain qui est fait.
C'est ça, mais d'un autre côté, en fait, ils ont tous raison, quoi. Parce qu'ils sont, c'est comme ça que,
en fait, ils sont
que
format, ça, le fonctionnement sont formatés comme ça.
Et comme ça. En fait, ils ne voient pas le problème. Je pense que c'est un problème de société.
Non, mais je ne vois pas le problème
parce que tu es complètement formé comme ça. Et en fait, d'un point de vue responsabilité, ils n'ont aucune responsabilité.
Je pense que pour balancer des trucs, des énormités pareilles, effectivement, c'est parce que t'es formaté comme ça et tu ne peux pas.
Ils sont sûrs de leur bon droit.
Ouais.
Ils savent qu'on ne pourra pas les attaquer parce qu'ils ont.
Oui, parce que, à
ils
mon
ont
avis.
La hiérarchie qui est faite comme ça.
Et puis l'expérience leur prouve qu'on sait qu'il y a déjà eu des cas de suicide précédemment.
Oui,
et qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Et que ce n'est pas ce cas précis qui va plus les emmerder que ça.
Et je crois que c'est ça, qu'à un moment, c'est ce qu'on lui dit à l'inspectrice. C'est que s'il faut aller plus loin, en fait, là, c'est tout le système que vous remettez en cause. Et ça va jusqu'au ministère. Et en fait, c'est vous attaquez à tout, quoi.
Oui.
En fait. Donc ça va plus loin que le simple. C'est que si vous voulez remettre la responsabilité, c'est tout le monde que vous allez mettre responsable et vous attaquez directement au système. Et c'est le système que vous voulez faire chuter. Ce qui est vraiment impossible. Et ce qui clôt un peu le...
Mais pour eux, en tout cas, ça clôt le débat.
Ça clôt le débat,
ouais, totalement. Mais pour Eugene, pas du tout.
Oui.
Tu sens qu'elle ne veut pas en rester là et qu'elle va décider de monter une à une... Ces différents échelons qui s'opposent à elle en disant attends, mais il faut que cette gamine on lui fasse justice, quoi, en fait, tout simplement. C'est pas possible. Et elle va à un certain moment légèrement s'énerver.
Mais ouais, ça reste toujours ultra contenu comme Zoe.
Oui, comme Zoe quand elle s'énerve.
En fait, il y a un parallèle entre les deux, de toute façon, les trucs. Ou quand chacun s'énerve, en fait, c'est une colère froide, peut taper, mais après, ça revient au calme.
Au calme, oui, parce qu'elle, elle est très méthodique, en fait. Et c'est ce qui l'a fait progresser, d'ailleurs, dans son enquête. Hein. Si elle s'appliquait pas à elle-même de redescendre un petit peu, une fois qu'elle s'est énervée, de redescendre de sa pression pour repartir sur les bases solides de son enquête, elle n'y arriverait pas.
Ah oui, tout à fait.
C'est clair.
C'est vrai que j'étais parti plus sur ce côté que la réalisatrice, en fait, avait choisi l'enquêtrice, comment elle s'appelle ?
L'actrice. Dounabé.
Dounabé, oui. Ouais. Elle avait choisi, en fait, elle avait conçu le film en pensant à elle, en premier, et son rôle a été écrit en premier en pensant à elle, et en écrivant même son histoire, sachant très bien, en plus, que son rôle d'enquêtrice ne sera qu'en deuxième partie, et que jamais on ne la verra dans la première, ou alors on ne sait pas, on la voit très furtif. Et elle avait choisi cette Bounabé justement pour cette deuxième partie, en ayant vu comment elle avait joué avant, et en écrivant ce scénario rien que pour elle. C'est vrai que j'avais vu ça, je trouvais sympa que l'actrice justement accepte ce rôle, en sachant très bien comment elle serait reléguée après, et en n'ayant que cette deuxième partie, et se confrontant
à l'histoire relatée dans la première moitié du film, totalement. Mais c'est ce que j'avais lu aussi sur une interview de
Jung,
c'est qu'effectivement, elle avait tout de suite pensé à Dounabé pour le rôle, et qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle avait pensé ce rôle et elle l'avait écrit, elle est réalisatrice du film, mais scénariste aussi.
Ouais.
En se focalisant vraiment sur elle et sur cette deuxième partie avant de faire la première.
Oui, en plus, si on en prend la chronologie, l'histoire véridique de la Kim Soe véritable 2017, le film sort en 2022 et tourne en... Je ne sais plus quand elle tourne, mais elle tourne très rapidement aussi. Elle tourne en 6 semaines. Donc tout ça a été quand même fait très rapidement pour sortir justement en 2022. Donc tout a été très méthodique aussi dans sa réalisation. Et entre le moment du fait, le moment de la sortie du drame, la connaissance par...
Il y a peu de temps.
Tout est vachement bien tourné, vachement bien réalisé. Donc, non, c'était assez impressionnant ce côté-là. Et en plus, ça a vachement bouleversé la société sud-coréenne pour arriver à une loi.
Oui.
C'est la loi, c'est Next Zoé.
J'ai pas.
Si, c'est la loi Next Zoé.
Ah oui.
C'est une loi. C'est une loi qui est. C'est un amendement en fait. T'as pas vu ça?
C'est un amendement en fait.
Ouais. Je vais le relire comme je l'ai noté. C'est un amendement. La Vocation Education and Training Promotion Act. Mmh. Une loi qui régit la formation professionnelle et les périodes de stage obligatoires des étudiants en Corée du Sud. Et en fait, c'est suite à l'émotion qui a soulevé cette histoire. Parce que, en fait, l'histoire a été connue. Le suicide a lieu en 2017. Et un mois ou deux après, il y a une émission qui s'appelle. Qui est un peu l'équivalent d'un 60 Minutes en Corée du Sud. Et où il y aura une émission où ils vont parler de ça. Et ça va créer un émoi. Le seul problème, en fait, c'est que le suicide de cette jeune fille va avoir lieu en même temps qu'il y a des émeutes en Corée du Sud, notamment par rapport à des soupçons de corruption par la présidente à l'époque.
Ouais.
Donc en fait, il y a des émeutes à l'époque par rapport à la corruption, et cette jeune fille va se suicider. Donc, ce qui fait que ça va passer au second plan.
Et c'est plus tard que l'histoire va remonter.
C'est pour ça que la ressort va remonter après. Et que la réalisatrice va tomber dessus, va décider d'en faire un film, et que ça va avoir un amendement pour régir un peu les stages là-bas, en 2023. Et pour anecdote, la présidente de l'époque a pris, je crois que c'est 30 ans de prison ferme.
Rien à voir, mais c'est
pour dire qu'à l'époque, la Corée du Sud était dans une période très chaude, et que ce suicide est passé complètement à l'as, parce que c'était les émeutes, etc. Voilà, et ça a créé cet amendement plus tard, l'amendement qui porte le nom Next Zoé. C'est devenu aussi une expression, en fait.
Le titre du film original, donc anglais, Next Zoé, est beaucoup plus intéressant, comme c'est bizarre, que le titre français. Alors déjà d'avoir traduit en français l'expression anglaise est un petit peu con, à la base. Je veux dire, quitte à mettre un titre de distribution en France, je pense qu'il aurait juste fallu appeler le film Kim So-hee, à la limite.
Ah oui, d'accord. Oui.
Mais revenons au titre original, qui s'appelle Next So-hee, et qui veut en fait tout dire de la politique interne de l'entreprise qui l'avait accueilli en stage.
Et puis le fait qu'on mette sous le tapis aussi les suicides précédents.
Next,
ça, c'est la next. Voilà. Ouais,
passons à autre chose.
Zoé n'est qu'un nom, il y en aura un autre après. Quoi.
Voilà. Et elle était la Zoé suivante de celle qu'elle a remplacée quand elle arrive.
Robots. Hein. C'est un robot.
Totalement. Alors, c'était pas sous-titré, mais a priori, tu as les noms et prénoms des stagiaires ou des employés, tu sais, au-dessus de la petite cabine là dans laquelle ils sont, tu
d'accord,
vois.
Ouais.
Et on voit que quand elle arrive le premier jour, il y a un nom qui est inscrit, alors d'écriture coréenne, hein, donc voilà, pour nous, si tu n'es pas formé, c'est illisible.
Ouais.
Mais effectivement, le lendemain ou le surlendemain, le nom a changé, voilà, et on n'avait évidemment pas pris la peine de l'accueillir comme il fallait, en lui mettant son emplacement à son nom et tout. C'était celui de la personne précédente qui était en place. Et il y a fort à parier que... Donc elle se suicide le dernier jour de sa mise à pied. Elle était mise à pied, tu sais, pendant trois jours. Elle se suicide le dernier jour de sa mise à pied. Il y a fort à parier que le lendemain, quand sa place est disponible et qu'il y a quelqu'un qui arrive, la personne s'assoit et que ce soit marqué Kim So-hee sur son emplacement. Et ce qui veut dire, ce qui veut sous-entendre derrière, de dire, la Zoé suivante, the next Zoé, ce sera la personne qui viendra.
Tu es totalement remplaçable, jetable, il n'y a pas de problème. Mais, j'avais vu, c'est que le next Zoé est devenu en fait
une expression.
Suite au film, en fait, c'est devenu un slogan dans les manifestations, next Zoé pour.
D'accord, carrément. Ouais.
Le concept aussi, je ne sais pas, j'ai vu de Gabjil. Gabjil, en fait, c'est un concept coréen qui décrit en fait l'abus de pouvoir d'une personne en position dominante, qui est aussi devenu, par rapport à ce film, très important dans les manifestations.
D'accord.
Et les étudiants, les élèves ont parlé de ce concept-là, qui est devenu très fort et qui a marqué et qui a abouti à cet amendement, justement, pour qu'il y ait plus de reconnaissance.
Non, j'allais dire que malheureusement, comme d'habitude, il faut souvent en arriver à un drame pour que les lignes bougent, que les choses changent, quoi.
Puis là, pour le coup, un film, quoi.
Oui.
C'est pas forcément c'est même pas ça.
Oui, parce que là, ce qui est encore plus dramatique, c'est que c'est pas le fait divers en lui-même
qui a fait bouger les choses.
C'est parce que la réalisatrice a entendu parler du fait divers, qu'elle s'est dit, oh là, il y a une histoire, il y a un drame absolu qui s'est passé, et je pense qu'on peut faire passer un message en faisant un film là-dessus, que les choses ont changé après la diffusion du film. C'est barjot de se dire ça.
Bah ouais.
Si, ça rappelle Mississippi Burning dont on parlait il y a 2 mois.
Pourquoi le...
Les meurtres du Mississippi ont fait bouger les choses.
Ouais, le film en soi n'a pas...
Ah, le film en soi, non. Tu as raison. Le film est arrivé 25 ans après les événements.
Mais ouais, il faudrait voir après. Même après
les affaires n'étaient pas terminées.
Ça n'a pas fait du bien. Le film. Bah non, mais tu vois, j'avais noté que le tournage principal, a été tourné le 16 janvier 2022 et a été fini le 28 février
2022. Ouais.
Bah, sauf qu'il sort, à Cannes en
mai.
En mai, quoi.
Ouais. Ah oui, le montage.
Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas grave. Ta magie du montage.
C'est sûr.
Mais c'est bien ça, en fait. Tu vas tout laisser, ouais. C'est qu'en gros, c'était une machine, quoi.
Ils se sont mis au banc de montage tout de suite pour...
Pour partir en...
Il arrive des fois qu'à Cannes, les films ne soient pas totalement finalisés et tout. Mais elle, et on l'a dit au début de l'épisode, elle avait pas non plus mis beaucoup de musique dedans. Donc voilà, en termes de montage global, effectivement, c'était peut-être un petit peu moins compliqué. Mais trois mois pour s'occuper de tout, effectivement, ça reste une belle performance, on est d'accord.
Ouais, c'est le premier film sud-coréen, ça a clôturé la...
C'était la quinzaine
de la critique à Cannes. Il a eu une ovation de 7 minutes.
Quand même. Ouais. Ah mais de toute façon, j'avais entendu parler de ce film de manière totalement improbable, en fait.
Je sais même pas quand j'ai entendu parler de ce film.
Alors, je crois que c'est moi qui...
C'est toi ?
Je vous l'avais reco après une émission. Toi, évidemment, dans ton amour du cinéma coréen, tu t'es dit, ah tiens,
non,
je...
C'est pas ça, toi.
Curieux.
C'est plus, je sais que vous faites des bonnes recos, et je vous dis, je vais suivre ces recos, c'est un homme de goût.
Ça dépend quand même des fois.
Recours anti-recours.
Oui, tout à fait. J'avais dû voir une critique traîner sur un site ou un réseau social quelconque en disant énorme coup de poing au visage que ce film-là. Ça y est, l'idée que j'avais tout à l'heure m'est revenue, et c'était de dire que malheureusement. La Corée n'est pas un cas isolé parce que, alors c'était peut-être pas des call centers, mais c'était un opérateur télécom. Et en France aussi, on a eu ce genre d'histoire, puisqu'il y a eu, je ne sais plus en quelle année c'était exactement, c'était entre les années 2010 et 2020, toute une vague de suicides chez Orange Télécom. Qui ont mené à la démission du. À la démission du PDG. Je ne sais plus comment il s'appelait. Pareil, de ce que je me souviens à l'époque, les premières réactions...
Ah, c'était la mode du suicide, c'était ça
C'était ça.
C'était la mode du suicide.
Le suicide est à la mode, c'est pas de la faute de l'entreprise. Enfin, on cherchait à dédouaner...
Oui, déshumaniser complètement le truc.
Dédouaner l'entreprise totalement de ses responsabilités.
Oui, avec des phrases choc.
Et puis, au final, voyant que le soufflet ne retombait pas, à un moment... La pression de l'actionnaire derrière, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'actionnaire, encore je crois, majoritaire de Orange, ça reste à l'État.
Je
ne
sais pas si encore le cas se pute, le cas, je crois.
Ouais, mais quand...
À l'époque, il l'était.
Enfin, ils ne sont pas... Ils sont pas
ah oui, majoritaire.
Ils sont majoritaires.
L'actionnaire le plus important
de Orange, ça reste l'État. Donc à un moment, quand le ministre de l'Industrie... appelle, côté gentil maintenant, mais là...
Il va falloir revoir ta communication.
Entre les 10-15 suicides qu'il y a eu en quelques mois, plus ta communication qui est désastreuse, garçon, là, va falloir partir. Et va falloir partir vite et dignement. Donc on va pas te virer et tu vas poser ta dette.
C'était pour
Didier Lombard.
Didier Lombard. Didier Lombard. Sans doute, ouais.
Juste pour dire que malheureusement, voilà, la Corée n'a pas le monopole de ce genre de trucs. Puis que c'est pas que limité d'ailleurs. Alors c'est quand même situé en général plus dans les grosses entreprises ou chez les sous-traitants de grands groupes. La souffrance au travail, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est un vrai sujet de société qu'on a à peine commencé à effleurer dans les années 2010-2020 et qui revient en fait régulièrement dans l'actualité.
Mais clairement, et puis mais bon, là, après, là, t'es sur un système avec, je pense qu'il y a aussi le côté où ça touche des adolescents, quoi, qui sont...
Oui, qui en plus rajoutent...
Le truc de stagiaire aussi, quoi, qu'on peut connaître aussi en France, hein, le problème de stagiaire où t'es payé à coup de lance-pierre pour du boulot. Donc là, ça rajoute au drame, quoi. La vraie victime, on va pas dire la vraie, elle avait travaillé chez LG, je sais pas si t'as vu. Avant, anciennement, LG Télécom...
Une des deux plus grosses entreprises coréennes, avec Samsung,
ce que j'avais dit, en fait, c'est vrai qu'elle travaille au service Save. C'est quand même assez ironique. Ils sont vraiment pour objectif d'empêcher les gens de résilier qui doivent... Voilà, c'est absolument dégueulasse. Elle a tenu 5 mois avant de se suicider.
Oui, ce qui est à peu près... on l'a pas exactement dans le film, mais ce qui est, à mon avis, à peu près la timeline.
En regardant le film deuxième fois, ça, je m'interrogeais sur le temps que ça dure, parce que tu as la neige qui arrive.
Oui.
Sauf que tu... Début de l'hiver, t'as pas de notion.
Quand ça commence, on n'a pas forcément l'impression qu'il fait encore trop froid ou tout comme ça, mais effectivement, à un moment, t'as l'hiver qui arrive, la neige, qui font que tu sens qu'il y a quand même plusieurs mois qui se sont passés.
Elle a vraiment réussi à tourner dans la même ville. C'est Jeonju, une ville du nord.
D'accord.
Par rapport à Séoul qui est au bas. C'est Séoul qui est au nord de la Corée, donc ça va être un peu en dessous, mais une ville de 600-700 000 habitants.
D'accord.
Une ville importante. Et ils ont trouvé exactement dans les mêmes lieux, en fait.
Ok.
Elle a retrouvé le même endroit, donc je pense que d'un point de vue temporalité, ils respectent aussi le truc. Après, par rapport au temps, par rapport à la neige, ça, je pense que tu retrouves vraiment sur le même principe.
Tu y faisais allusion tout à l'heure sur les décalages entre les côtés sombres et les côtés...
La lumière.
Lumière, etc.
Qui sont très peu présents, mais un petit peu.
Et c'est incroyable aussi qu'elle ait choisi la réalisatrice pour la séquence de l'enterrement. Un moment où il fait beau, il n'y a pas de nuages,
le
soleil brille, quoi. Est-ce qu'elle veut aussi faire passer un message, ou en tout cas de
se libérer?
Est-ce que c'est exactement ce à quoi je pensais? Est-ce que c'est une sorte de libération? Et c'est incroyable. Et je pense que si elle les a mis dans le film, c'est que ça a peut-être dû arriver dans la réalité. C'est que son maître de stage est le proviseur de l'école qui se fait puncher par Ujin, sont présents à l'enterrement.
Oui, j'ai un voile sur le truc.
Alors, au premier visage, je ne m'en étais pas aperçu, et au deuxième, effectivement, à un moment, tu vois un mec qui a un œil au beurre noir et tout.
Je dis,
waouh, putain, le mec, il s'est fait bastonner deux jours avant par la policière, et il est quand même là à l'enterrement. J'ai pas d'enfant, mais je veux dire, je pense que si ce genre de choses arrivait et que je considérais que l'école était responsable
pas sûr que les parents considèrent que l'école est responsable.
Oui, mais c'est vrai qu'on les... Alors,
on n'a pas leur
point de vue. On les entend très peu témoigner dans le film. Ils cherchent juste à savoir la vérité et ils sont très peu...
Ils demandent l'autopsie.
Ils se reposent énormément sur la police. Oui. Mais effectivement, on ne les entend pas réclamer ne serait-ce que justice ou autre chose, en fait.
Responsabilité, comme ça. Ouais, ils montrent que l'autopsie, d'ailleurs. Plus, il y a une interview de l'enquêtrice qui vient les voir.
Oui, qui revient les voir. Et puis après, tu les vois à l'enterrement où le père ne dit rien. Et puis la mère suit le corbillard. Et elle est
en retrait, quoi. Mais je pense que ça fait partie de cette logique d'être respectueux des traditions, respectueux de la hiérarchie, donc...
Oui, pas faire de bruit,
pas faire de scandale, si le prof, il est là, c'est qu'il parle du supérieur de leur fille, donc il pas de souci, quoi.
Ils ont pas poussé, alors peut-être parce que c'est pas arrivé dans la réalité, ils ont pas poussé non plus le vice jusqu'à faire apparaître les responsables hiérarchiques de l'entreprise.
Non, donc, voilà. Ils en ont rien à foutre, je pense.
Oh, oui, je pense que c'est... comme on l'a vu lors du suicide du premier manager,
ils s'en foutent.
C'est qu'effectivement, c'est, bah, comme on l'a dit, c'est next hein, ouais. Au suivant. Pour nous, c'est du consommable, ouais. Quoi. Hein, tout...
Quelqu'un d'autre fera son travail.
Ouais. Est-ce qu'on a aimé ce film?
Moi, je pense que j'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais.
On l'a quand même laissé beaucoup transparaître.
Ouais.
Ça a été une...
Et je me demande si je ne l'ai pas appris.
La deuxième fois?
Ouais, je ne sais pas, en connaissant un peu plus le contexte sud-coréen.
Oui. Bah, j'avais, entre les deux, j'ai moi aussi vu beaucoup plus de films coréens.
Dans ce point-là.
Voilà, ouais. Pour approfondir... Alors, c'était pas le but, mais approfondir ma culture, parce que... Voilà, on l'a dit, le cinéma coréen est aussi un cinéma sans filtre,
ouais.
qui sur certains films te fait passer du drame à la comédie en deux écarts de plan, quoi. Ouais. C'est
qui gère super bien les différences de ton et voilà, les différences d'intention.
Totalement.
Ce qu'on répète, hein, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce film.
Non.
Où c'est assez linéaire de ce côté-là, voilà, c'est sombre. Non, c'est un film qui m'avait vraiment bien cueilli. Et moi, j'ai aimé cette lenteur. Voilà, c'est quand même assez lent, peu de dialogue. Moi, j'ai bien aimé. Et surtout, bah, le fait d'en connaître un peu plus sur leur système éducatif, le système aussi de l'entreprise, fait qu'au deuxième visionnage, ça ne m'a pas dérangé du tout. J'ai encore apprécié le revoir.
Quand je l'ai regardé, je mets en route, je vois 2h17. J'étais là, je me souvenais plus que c'était aussi long que ça.
Ouais, ouais.
Et en fait, ça passe. Les 2h15 passent très vite. Malgré ce que tu disais, malgré la lenteur intrinsèque du film. Mais voilà, quand tu es bien pris par la main, quand tu es transporté dans ces univers.
Mais en fait, il t'explique. Ce que je me disais en regardant, c'est qu'il t'explique vraiment tout. Même, c'est la première fois, je n'avais pas fait gaffe, mais parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais en le revisionnant une deuxième fois. Tu dis que dans le film, en fait, ils te donnent des pistes pour comprendre leur système. Il faut simplement être attentif, l'intégrer. Oui. C'est pas forcément évident, mais en fait, ils te les donnent, les codes. Ouais. Tu les as, mais regarder un film, de lire en même temps, d'être attentif à ce qui se passe devant toi. Mais en fait, les dialogues te donnent les clés, en fait,
pour
comprendre un peu. Là, c'est en ayant en plus un peu regardé à côté ce qui se passait. C'était vraiment sympa le deuxième visionnage. Moi, j'adore cette actrice là de. Terrible. J'aimerais bien l'avoir dans d'autres films, dans d'autres rôles un peu moins ce glaçon qu'on peut avoir. J'aimerais bien l'avoir revoir dans d'autres films. J'aurais regardé un peu ce qu'elle a fait. Elle avait joué aussi, je crois qu'elle a joué dans un autre film que t'as pas dû voir. Ça s'appelle Linda.
Non, ça me parle pas.
Ça me parle pas. Non, c'est Linda. Il y a un troisième Linda. Je te passerai. Je sais pas si tu vas l'aimer.
C'est un film coréen.
Je crois que c'est un film coréen ou japonais. Peut-être japonais. Où elle joue le rôle du. En fait, c'est un groupe de petites rockeuses qui reprennent les morceaux d'un groupe de punk japonais et reprennent. Et voilà, c'est l'histoire, ça s'appelle les Linda.
Ah, le punk japonais, ça c'est...
Mais j'aime bien, c'est cool. Un petit punk japonais comme ça, c'est cool. Et d'ailleurs, pour info, c'est que le film est sorti et qu'il y a un groupe maintenant américain, de jeunes asiatiques, qui font du garage, du rock garage, et qui s'appelle Linda's. Je crois qu'ils sont totalement en référence au film qu'il y a eu quelques années avant. Okay. Ça m'a fait marrer de voir tout ça. Je connaissais le groupe américain, les Linda's, et de voir qu'il y avait le film que j'ai regardé aussi. Donc ça se regarde aussi, hein, faut aimer ce genre de truc. Hein.
On recommande évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de voir Baud Kinsoy, évidemment.
Ouais.
Et le Girl at My Door.
Ouais.
Je pense que moi, je me le suis mis sur ma...
Ouais, regarde-le. Tu me diras, je serais curieux d'avoir ton avis.
Ouais.
Non, c'est vraiment des histoires de famille, dans des petites villes portuaires. Il y a une histoire de pêche.
On va pas se mentir sur le... Du mal à quantifier, j'ai dû voir entre une vingtaine et une trentaine, je pense, de films coréens.
Ouais.
On va dire que la majorité d'entre eux, c'est quand même pas la comédie, la grosse marade, quoi.
Là, c'est vraiment du cinéma social, sociétal, beaucoup plus que ce qu'on... Ah non, c'est pas plus, c'est différent. Mais c'est plus brut, on y va directement. C'est épuré, on parle de la chose. Alors que les autres vont pouvoir aborder des thèmes sociaux par différents biais.
Oui.
Là, c'est direct. Hein. Et toujours avec cette inspectrice qui joue encore une
fois. Oui, Dounabé,
qui est l'inspectrice monolithique. Qui prend les choses à cœur. Mais qui est assez... Moi, j'aime bien. C'est excellent.
Et je voulais juste qu'on termine de parler de ce film avec la scène finale.
Ouais.
Qui, je sais pas si tu te souviens, si elle te... Ah, comme trou, ça, tu as un petit...
J'ai un trou, ça, je suis en train de me le dire depuis tout à l'heure, en fait. J'y pense depuis tout à l'heure,
la scène finale... un petit peu avant la scène finale, il retrouve le téléphone de Zoe.
Ouais.
Et elle a tout effacé dedans, elle a tout réduit, sauf une vidéo d'elle en train de danser.
D'accord, oui, voilà. Je l'ai très bien. Pas de problème, je l'ai, comme scène.
Et la scène finale, c'est Doona Bay qui est dans la même salle, toute seule, pareil, en train de danser.
On avait un peu encore une fois tout à l'heure, mais je me rappelais plus que c'était la scène finale.
Encore une fois, un parallèle entre les deux, entre la scène d'ouverture et la fermeture du film.
Qui ne se sont jamais croisés, mais en fait, qui ont été ensemble à un moment.
Oui, tout à fait. Et unis par une passion, toutes les deux, qu'elles ont dû délaisser à cause de leur vie. Quoi, hein.
Ouais, et puis qu'on se sent un peu seul tous les deux.
Tout d'abord, on sent que c'est une solitaire.
Ah ouais, qui ont des réflexes un peu communs de se mettre. C'est vrai que dans cette scène finale, elle est terrible. Quand tu me la mises, je serai me la remettre bien comme il faut. Et elle est top. Elle est top, le regard, en fait. Chacun se regarde, quoi, en fait.
Mm-hmm.
Parce qu'elle, elle est dans le fond de la classe en train de regarder l'autre danser, en train de regarder par la vidéo.
C'est
très bien.
Ouais. Eh bien, on en a fini avec la chronique de ce film.
Qu'on a eu du mal un peu à trouver infos, personnellement, c'est pas facile.
Ça n'a pas été simple, mais
on aime beaucoup.
Totalement, et qu'on recommande à chaudement, 100% là-dessus. Tout à fait. Est-ce que tu as un petit j'aime ou j'aime pas?
Moi, ce sera j'aime pas.
C'est
rare, en plus, je fais
rare. Oui, c'est plus en soirée baby, d'habitude.
Je sais bien, mais comme c'est un film que j'ai vu hier, donc...
Tu as laissé le temps de retrouver le nom exact du film.
Bah oui, parce que j'étais parti pour voir.
Mais t'as tellement pas plu.
T'étais
parti pour voir le film sur Poutine et il était plus à l'affiche.
J'étais plus à l'affiche. J'ai regardé autre chose sans trop savoir ce que j'allais voir. Donc mon anti-reco, c'est l'affaire Bojarski. Avec Reda Kateb et Sarah Giraudeau et Bastien Bouillon, l'histoire d'un faussaire. Polonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, va se faire au papier, puis être embauché par la mafia lyonnaise. Ça se passait déjà à Lyon à l'époque.
Mmh.
Et ils vont faire de la fausse monnaie. Par la suite, les enquêtes policières, ils vont tous se faire arrêter, sauf Bojarski, donc joué par Reda Kateb, qui va se mettre à son compte et va devenir le plus grand faussaire de faux billets, notamment... de banque français, forcément, et il va être pris en charge parce que la Banque de France ne peut pas supporter face des faux billets. On risque plus cher en faisant des faux billets quelquefois qu'en faisant
d'autres
crimes. Oui, c'est clair. on touche pas au Grisby, quoi.
Ouais.
Et donc voilà. Et donc l'enquêteur va passer toute sa vie parce que ne jamais se faire arrêter. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, d'un fait réel. Alors, j'ai pas vu à quel point, plus je sais pas que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et toute sa vie, Reda Kateb, Bojarski fera des faux billets en se faisant poursuivre par l'inspecteur qui en laissera aussi sa vie de côté. En fait, chacun, les deux, vont laisser leur vie de côté à force d'avoir une obsession. Voilà, c'est des obsessionnels, l'un pour la perfection de la malfaçon et l'autre par le fait de vouloir trouver son ennemi, son némésis.
D'accord.
Donc voilà. Donc l'idée en soi était très bonne, je trouvais ça sympa.
Mm-hmm.
Un acteur que j'aime bien, Reda Kateb. Le réalisateur, je ne savais pas quel réalisateur c'était, Jean-Paul Salomé. Je crois que j'ai vu aucun de ses films. Bon, je dois dire que ça m'en
va
pas. Mais bon, on ne sait jamais, après tout, pourquoi pas. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement plan-plan sur un sujet. Ça donnait un petit côté arrête-moi si tu peux, à la française, avec des grosses lourdeurs de scénario. Et donc voilà, quand tu vas au cinéma, tu as tendance après, moi, quand je sors du film, j'ai tendance à évaluer positivement un film parce que t'étais au ciné, t'es dans une ambiance, c'est un truc qui fait que... Et là, quand tu sors du ciné, on est... Donc, je suis déçu parce qu'en fait, je m'attendais peut-être à quelque chose de mieux. Quoi.
D'accord.
Puis il y a des lourdeurs de... J'ai pas compris, il y a des coups de coude par rapport aux inventions. C'est très mal, très con, en fait. Et je vois qu'il est extrêmement bien noté. Je vais regarder un peu les critiques qu'il y a, en écouter d'autres. Pour me faire un avis, voir un peu ce que j'ai raté, si c'est vrai que je suis passé à côté, pourquoi pas après tout. Mais là, je l'ai vu hier soir, grosse déception.
Pas de...
Pas un j'aime, pas du tout.
Relever le niveau.
Relever le niveau et me donner envie de voir quelque chose.
Alors, je vais essayer, je vais rester dans. Je Je vais rester dans la dimension sud-coréenne.
Ah, ok.
Voilà. En vous recommandant donc, un film que j'ai aimé.
Très bien. Bien.
L'année dernière. C'est pas loin, l'année dernière.
C'est 2025, non, c'est pas loin.
C'est deux mois. Hein. D'autant qu'il est sorti, il est sorti en fin d'année. C'est un film Netflix qui s'appelle Good News. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. Et je te remets le pitch en tête et peut-être que ça va te parler.
Peut-être, ouais.
C'est un groupe terroriste communiste japonais qui détourne un avion de la Japan Airlines au départ du Japon. Voilà. Et qui veulent aller atterrir en Corée du Nord.
Quelle bonne idée.
Voilà. Pour rejoindre leurs compagnons de lutte.
Camarades.
Et les pilotes font en sorte d'atterrir en Corée du Sud. Et pendant, ils ont réussi à prévenir les Sud-Coréennes. Et donc, ils montent une opération de faux-semblants pour leur faire croire qu'ils ont atterri en Corée du Nord. Donc, ils maquillent le personnel au sol et l'aéroport pour le faire ressembler à un aéroport de Corée du Nord.
Stratagème.
Le stratagème va être éventé au moment, peu de temps après leur atterrissage. Et donc, va s'en suivre toute une période de menaces et négociations avec les terroristes pour essayer de libérer les otages. Et ça paraît tellement délirant que si je te dis que c'est une histoire vraie...
C'est vrai que comme ça, il y a un côté un peu argot aussi.
Totalement. Comment l'histoire se passe dans les années 70. Voilà.
Ouais.
Les acteurs sont tous... plus extraordinaire les uns que les autres.
C'est quoi, c'est une comédie?
En plus, c'est traité sur le ton de la bouffomédie, j'allais
dire. C'est burlesque, c'est un peu...
Ouais, bouffonnerie comédie, et sérieux en même temps.
D'accord.
C'est une ambiance très particulière, très bizarre, mais qui en fait un objet unique, presque un ovni cinématographique.
Ah ouais.
Et pour moi, c'est presque un des meilleurs films que j'ai vus l'année dernière. Ouais, franchement, très bien fait.
Pourquoi Netflix, si on prend des bons films.
Hein?
Alors, c'est un film Netflix ou c'est un film qui est sorti?
Alors, c'est un film...
C'est
une bonne question... Et ils disent pays de production Corée du Sud, mais il est sorti en exclusivité sur Netflix. Alors peut-être que Netflix a acheté les droits monde et pour se le garder, mais peut-être qu'ils l'ont pas financé, peut-être qu'ils l'ont pas produit. Mais en tout cas, il est dispo sur Netflix.
Voilà. Je regarderai ça.
Très très bonne surprise de la fin d'année dernière.
D'accord.
Un film qui s'appelle Good News. Je serais pas étonné que ça te plaise.
Ah bah oui, clairement.
Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver les épisodes du podcast sur notre site en écoute et téléchargement www.babygraver.eu. Vous pouvez également nous suivre sur bluesky@babygraver. Julien, tu es toujours aussi invisible sur les internets. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les podcasts et vous trouvez ça drôle vraiment sur les comédies françaises. Date de sortie sur plein de films improbables et sur mon compte Skyrim Tom the Lord, où je parle rugby, cinéma, foot, US, Formule 1, tout plein de films. Il est totalement inutile. Julien, comme toujours, désir.
Encore rugby, moins en moins.
Pendant les Six Nations, je balance de la punchline. Tu sais, quand les Anglais chez eux sont en train de prendre une branlée par les Irlandais, tu sais, qu'on est à 42-21 et qu'il reste à peu près 5-10 minutes de match, t'as plus trop de suspense et là tu balances, tu dis c'est intéressant ce que les Anglais proposent quand même.
Ouais. Oh, putain. Et puis quand t'as Marcus Smith qui se fait rattraper par la troisième ligne,
ouais.
qui a déjà joué 60 minutes et que ouais. lui, il vient juste de rentrer.
Et que lui vient de rentrer.
Ça fout les boules, quand même.
Ouais. Tu te dis, vous avez, vous avez une génération.
Ah, sur Marcus Smith, c'est pas possible. C'est un joueur.
Mais il est... Moi, pour moi,
c'est pas un 15. C'est trop petit.
Pour moi, à l'adjectif surcoté, t'as une photo de Marcus Smith.